un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous. Une fois n'est pas coutume, un jour dans l'histoire vous propose d'aborder les frontières de la littérature française et de son histoire à travers l'œuvre d'un de ses papes, François-René Vicomte de Chateaubriand. En effet, nous commémorons cette année le 200e anniversaire de son voyage en Orient, un voyage raconté dans un de ses livres majeurs, l'itinéraire de Paris à Jérusalem. Un récit publié en 1811 qui fonde le voyage romantique et dont toute la première partie est consacrée à la Grèce. Dans le premier tiers de cet ouvrage, Chateaubriand nous apparaît à la fois savant, archéologue même, mais aussi aventurier, observateur, attentif de la vie quotidienne des Grecs, marquée par l'occupation ottomane. Alors, voyageur et homme de lettres sûrement, mais ce périple de Chateaubriand peut-il être aussi considéré comme un témoignage fiable de cette époque? Parce qu'il est, précisément, porté vers les lettres plutôt que vers les sciences? Faut-il tout simplement croire ce qu'il raconte dans ce récit? En somme, le voyage en Grèce en 1806 était-il le fruit d'un travail d'observation ou bien au contraire le fruit d'une imagination géniale? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec deux invités, Jean-Paul Clément et Michel de Gégère. Jean-Paul Clément, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques, directeur de la maison Chateaubriand qui se situe à Châtenay-Malabry. Vous allez organiser une exposition très prochainement.
Prochainement, parce que nous sommes dans le bicentenaire. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons ce débat aujourd'hui, le bicentenaire, car Chateaubriand s'est embarqué, laissant Céleste de Chateaubriand éplorer en proie au Sirocco sur les bords de Venise pour partir et entreprendre ce grand voyage où il reviendra en 1807. Donc vraiment, c'est à la fois le voyageur, le pèlerin aussi, qui part avec dans des circonstances difficile, parce que ce n'est pas un voyageur muni, comme c'était le cas à d'autres circonstances, mais muni de tous les avantages possibles. Il a une petite cohorte avec lui, mais très peu. Et donc, comme en Amérique, il s'engage, et nous verrons tout à l'heure peut-être avec Michel de Gégère, dans quelles circonstances et pourquoi il a entrepris ce voyage.
Alors, je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage principal, Chateaubriand, une biographie parue aux éditions Flammarion. Je renvoie aussi nos auditeurs à l'autre émission que nous avons enregistrée ensemble, à savoir Chateaubriand oui. Politique, disponible dans la médiathèque de Canal Académie. Je me tourne vers Michel de Gégère. Michel de Gégère, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, directeur des publications hors série du Figaro. Vous venez de publier le numéro 3 consacré au château de la Loire, mais vous venez surtout de publier un ouvrage consacré au voyage en Grèce de Chateaubriand, intitulé « Le menteur magnifique » aux éditions des Belles-Lettres. Alors, menteur magnifique, c'est ce que nous allons voir dans cette émission, mais et avant tout, je me retourne vers Jean-Paul Clément. Vous abordez Jean-Paul Clément dans votre livre Les voyages de Chateaubriand dans un chapitre intitulé La patrie. Et la patrie, dites-vous, est inséparable de la liberté, ce qui est une idée oui. fois, dont on parle beaucoup en cette époque. Oui. Et oui. tout est lié, patrie, liberté et voyage. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur cet esprit?
Oui, il y a d'une part un attachement profond à la patrie, à la France, mais aussi à ce qu'il appelle la matrie, c'est-à-dire la Bretagne, dont il est originaire. Et puis, il y a aussi le voyageur. C'est un homme qui a passé près de 20 ans, il a vécu 80 ans, hors de sa patrie.
Ce qui est important pour l'époque.
C'est très important. L'Union américaine, qui n'était pas encore les États-Unis. Ensuite, un exil forcé en Angleterre de 7 ans. Ensuite, il a couru les routes et les rivages de la Méditerranée. Et puis, il a continué jusqu'à Venise. Puis, pour aider la duchesse de Berry, qui était en fâcheuse posture après maintes difficultés qui se trouvaient en 1833 à Venise. Donc, il est allé à Venise 2 fois. Il est allé à Prague. Et il aurait, je crois, comme Napoléon, beaucoup aimé aller plus loin et peut-être jusqu'en Inde. Il est passé par les pyramides et constamment, on le sait, il établit un rapport très étroit entre lui et Bonaparte. Nous, lieutenants ignorés, etc. Enfin bon, c'est la fameuse formule. Donc c'est un voyageur, mais me semble-t-il, et je ne sais pas ce qu'en pense Michel de Gégère, et c'est un point sur lequel je contesterait son beau livre. La contestation est la suivante. Il reprend, avec une application certaine, tout ce qui a été dit depuis plus d'un siècle, c'est-à-dire pourquoi Chateaubriand est-il parti pour entreprendre cet itinéraire de Paris à Jérusalem, c'était pour l'amour de Nathalie de Noailles qu'il attendait en Espagne. Et moi, je dois dire que dans mon livre, la biographie que vous citiez très, très aimablement tout à l'heure, je ne le crois pas. S'il avait voulu conquérir Nathalie de Noailles, il l'aurait conquise. Bien. Et donc, si l'entreprise voyage, c'est pour d'autres raisons. C'est parce que il voulait revenir aux sources mêmes de la civilisation occidentale, la Grèce, et les lieux saints, Jérusalem, et retrouver à travers toutes les lectures, toutes les humanités dont il était imprégné, car il y a vraiment une très grande connaissance des textes, même si vous le dites avec juste titre, il a, lorsqu'il a rédigé l'itinéraire, ajouté, retranché, etc. Mais malgré tout, le retour aux valeurs profonde de l'Occident, de sa propre culture, et de la retrouver à travers ses ruines, à travers ses paysages. On sait quel rôle il jouera dans l'indépendance de la Grèce. Ce sont des éléments beaucoup plus importants que la partie un tout petit peu anecdotique que vous donnez véritablement comme l'objet du voyage après Sainte-Beuve, après beaucoup d'autres, sans faire preuve d'une originalité particulière, mais qui me semble totalement disproportionnée entre l'extraordinaire voyage, avec tous les périls, tous les dangers. Il est revenu, il était quasiment mourant. Il est toujours mourant d'ailleurs, quand il est à Thionville, il rentre en Angleterre, enfin il rejoint l'Angleterre, on le met au bord du tombeau, là il tombe malade à la Vallée aux Loups en 1807 parce que il a très mal, c'est très mal nourri, il a sans doute eu une fièvre typhoïde, que sais-je, enfin tous ces détails qui n'apparaissent pas, et tout cela pour Nathalie Noailles, qui l'attendrait dans des lieux un peu imprécis. Bon, ce sera finalement Grenade. Je trouve ça totalement disproportionné et je le dis tout à trac à notre interlocuteur.
Alors, en fait, je ne suis pas aussi en désaccord qu'il pourrait apparaître. Je ne crois pas avoir dit que la rencontre avec Nathalie de Noailles était le but principal du voyage de Chateaubriand.
Ça apparaît dans votre livre.
Non, non. Ce que j'ai voulu dire, c'est que la perspective de retrouver Nathalie de Noailles a pesé sur les conditions du voyage dans la mesure où on sent chez lui une hâte excessive. Je suis absolument d'accord avec vous que ce qu'il va chercher, ce sont des images, c'est le retour à ses racines, aux racines des humanités, une espèce de pèlerinage érudit sur les lieux des héros de Plutarque, d'Homère, qui sont effectivement très importants pour lui. Je crois que le vrai but du voyage, au-delà de cela, il est encore autre. Il est que, étant écarté de la vie politique et de l'aventure napoléonienne, de la participation à l'aventure napoléonienne par le choix qu'il a fait au moment de l'exécution du duc d'Enghien, de démissionner de ses fonctions et de se tenir un petit peu en marge du régime, et donc de ne pas participer à la grande aventure, je crois que ce qu'il cherche, c'est l'équivalent d'une campagne militaire. Ça apparaît en permanence dans sa correspondance. Il cherche une épopée, une épopée érudite à la place de l'épopée militaire que le destin lui a refusée. J'ai parlé, après Sainte-Beuve et beaucoup d'autres de Nathalie de Noailles, parce que je pense que cette perspective de retrouver Nathalie de Noailles a pesé sur les conditions du voyage, en ce sens que il est sans cesse pris dans l'angoisse de l'idée de ne pas aller assez vite, de ne pas de rater un certain nombre de d'étapes et d'épisodes qu'il s'est promis de vivre. Et donc dans cette mesure, ça a conditionné son voyage, parce que tout de même, il passe en tout et pour tout 13 jours à visiter la Grèce, alors qu'il va rester 3 semaines, 1 mois en Espagne. Donc même si le but de son voyage est d'accumuler des images autour des humanités classiques, eh bien je pense que le rendez-vous amoureux a lui aussi joué son rôle, même si je suis d'accord avec vous que ce n'est pas le but principal du voyage.
Je crois que Nathalie Noailles n'a été qu'un moment dans la vie de Chateaubriand. Et
Vous le dites. Enfin, l'idée de civilisation ressort vraiment de votre livre. Chateaubriand peut se sentir citoyen d'Athènes, jouer au nouveau Tacite à Rome et se proclamer le disciple du Tasse, donc qui était ce poète italien du XVIe siècle. C'est un renvoi à la civilisation, une civilisation dont il a davantage conscience, expliquez-vous, après son voyage ou pendant son voyage en Amérique. C'est-à-dire que l'Amérique, le renvoi, lui permet de découvrir la singularité de la civilisation occidentale, entre guillemets.
Oui, je crois, enfin, votre remarque est tout à fait juste. C'est-à-dire que il avait quitté l'Europe en proie à la Révolution en 1790. Il rentrera en 1791 en apprenant l'arrestation de Louis XVI et de sa famille à Varennes. Bien. Et pour lui, qui est un homme marqué par Jean-Jacques Rousseau, c'est une Europe corrompue, une vieille Europe qu'il faut fuir pour retrouver la vitalité, ce côté à la fois massif, fertile, profond d'un nouveau monde. Bien. On peut dire qu'il a été en grande partie déçu par son voyage en Amérique. Peut-être pourra-t-on dire qu'il a été déçu aussi par ce qu'il a vu en Grèce.
Je crois.
On n'exclut pas, n'est-ce pas? Bien. Donc, il rentre en Europe, sert dans l'armée des princes, voit que cette armée est tenue comme quantité négligeable par l'alliance austro-prussienne, bien, et donc passe en Angleterre. Mais il a vu cette Amérique, eu le sentiment de découvrir des forêts primitives, de découvrir une nature vierge, insoupçonnée, et nous en avons, il en a tiré les quelques-unes des plus belles pages de l'essai sur la Révolution, qui est 1797, mais aussi il les reprendra inlassablement, il y a 3 ou 4 versions des nuits dans les savanes du Nouveau Monde. Bon, donc vraiment, c'est la nature. Niagara joue un rôle considérable. Et on peut remarquer que Niagara, d'ailleurs, est constamment présent, aussi bien dans l'itinéraire de Paris à Jérusalem, dès qu'il y a un souffle de vent, Niagara reparaît. De même, lorsqu'il donne une grande fête en 1828, en l'honneur de la duchesse, la grande duchesse de Russie, eh bien, il y a un coup de vent au moment où on joue Rossini, et aussitôt, de nouveau, s'engouffre cette réminiscence de l'ordre du Nouveau Monde qu'il a connu en 1791. Donc, tout cela est très, très lié l'un à l'autre. Mais malgré tout, le Nouveau Monde, il l'a connu, et bien, lorsqu'il rentre en 1800 en France, il se rend compte que la France est complètement ruinée. Bien, il va publier Atala, qu'il rend célèbre, René, moins célèbre, mais enfin, malgré tout, qui est un roman qui, lui, aura une postérité considérable chez tous les romanciers, poètes de l'époque romantique. Et puis, après cela, Le génie du christianisme. Et ensuite, on l'envoie à Rome, et qui est une découverte extraordinaire pour lui, qui est un homme...
Une autre patrie spirituelle.
L'homme des Septentrions, l'homme du Nord. Il n'a connu que le Nord de l'Amérique, il n'est pas descendu jusqu'en Louisiane, comme il le dit. Donc, il découvre vraiment une Italie, des lumières, des couleurs, des ruines, et cette fièvre des pierres dont il aime véritablement se gorger. Il va d'une pierre à l'autre, d'un sentiment à l'autre. Le sentiment d'entrer dans une civilisation qu'il avait traitée dans le génie du christianisme, mais qu'il avait traitée sans la connaître. Bon, elle était purement livresque. Alors, repartir ensuite de Venise, qu'il a très mal traité d'ailleurs dans son premier voyage, beaucoup mieux dans le second. Les dames de la haute aristocratie vénitienne lui en ont voulu de ses premiers propos sur Venise et sur ses tombeaux et sur ses gondoles qui ressemblent à des tombeaux. Bon, mais il y a eu une querelle là-dessus, peu importe. Il abandonne la pauvre Céleste et il entreprend ce voyage. Et c'est un autre voyage dans un pays qui est nourri véritablement. Sa conception nostalgique aussi, des civilisations perdues, des civilisations révolues. Les Grecs, d'ailleurs, lui en font le reproche. On a l'impression, quand on lit l'itinéraire de Paris à Jérusalem, que les Grecs vivent renfermés dans des grottes, qu'ils sont amnésiques, qu'ils ont perdu tous les sentiments de leur propre patrie et de leur histoire, et que tout cela est en quelque sorte fondé sur le joug de l'Empire ottoman.
Alors, nous allons revenir, Jean-Paul Clément et Michel de Gégère, sur cette fuite du temps, sur ces nations tombées, après une première pause.
Vous écoutez Canal Académie.
Chaque lundi, les académiciens de l'Académie des sciences morales et politiques se réunissent dans la salle des séances de l'Institut de France. Ils écoutent une communication sur un thème choisi.
Pour les séances de l'année 2006, le président de l'Académie, Monsieur André Damien, a choisi le thème de la justice.
Sur Canal Académie en séance, vous permettra d'entendre, entre autres intervenants, Henri Amouroux sur la justice du peuple en 1944.
Maître Jacques Vergès, la passion de défendre.
La justice, thème de réflexion de l'Académie des sciences morales et politiques pour l'année 2006.
C'est chaque semaine dans En séance sur Canal Académie.
On retrouve Christophe Dicasse.
Nous reprenons le cours de notre émission. Un jour dans l'histoire reçoit Jean-Paul Clément, spécialiste de Chateaubriand, auteur d'une biographie magistrale sur le sujet, paru chez Flammarion, et Michel de Gégère, écrivain, journaliste, directeur des collections hors-série du Figaro, et auteur du livre Le Menteur Magnifique, Chateaubriand en Grèce, paru aux éditions Les Belles Lettres. Alors, avant la pause, Jean-Paul Clément, vous évoquiez cette fuite du temps, ces nations tombées qui le fascinent. Est-ce que, Michel de Gégère, vous avez ressenti ce même esprit? Et au fond, est-ce qu'en étudiant et Rome et ensuite Athènes, eh bien, au fond, est-ce que Chateaubriand ne se reporte pas aussi sur la France et sur la fin d'une civilisation qui est la civilisation monarchique?
Alors je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, mais il est sûr que la fuite du temps et la chute des civilisations, c'est le ressort même de sa poésie.
Oui.
C'est le fond de sa sensibilité.
Je suis votre ami.
C'est cette espèce de sentiment du temps qui passe irrémédiablement et qui est irrécupérable. Et c'est là, Chateaubriand est l'un des fondateurs en littérature de la poésie des ruines. Et Jean-Paul Clément parlait tout à l'heure de sa déception. Il est évident, et on le sent dans ce qu'il écrit, que Chateaubriand est déçu au premier abord par le spectacle de la Grèce, parce que il y va avec des connaissances livresques, bien entendu, et il s'imagine qu'il va refaire au fond le voyage du jeune Anacharsis. Il va se promener de ruine en ruine entre des temples grecs et des temples grecs.
De l'abbé Barthélemy qui avait un tel succès à la fin du règne de Louis XVI.
À la fin du XVIIIe siècle. Et ben, il trouve un pays retourné à ce qu'il appelle la barbarie, des paysans en fustanelle, vivant médiocrement sous le joug ottoman, des monuments extrêmement détruit. Même la Grèce que nous connaissons, elle a souvent été relevée par les archéologues de la fin du XIXe siècle.
Bien sûr.
La Grèce que vous traverse Chateaubriand est beaucoup plus sauvage.
Il s'en échappe, parce qu'il n'y a rien à voir.
Voilà. Donc, dans beaucoup de sites dont il attend monts et merveilles, il n'y a rien ou presque à voir. Alors, il va s'en sortir par le mensonge, ça nous y reviendrons, mais il s'en sort aussi...
Ah, c'est ce mot qui ne me plaît pas.
Mais nous y reviendrons. Mais il s'en sort aussi en transformant cette déception, et là c'est la magie de la, du génie littéraire de Chateaubriand, c'est en transformant cette déception en lyrisme. Et en faisant de cette grandeur évanouie, non pas l'objet d'une méditation morose, mais au contraire, l'objet d'évocations éblouissantes, où il fait revivre toute la poésie de ce qui a disparu, en évoquant ces ruines de la Grèce.
Il y a une chose qui m'a beaucoup interpellé, c'est qu'on a l'impression que Chateaubriand se met en scène. Est-ce que c'est une constante de son œuvre ou c'est particulier à l'itinéraire de Paris à Jérusalem ?
Non, il faut bien être tout à fait honnête. Il est au centre de l'univers dont il recrée parfois une partie. Dans Atala ou dans Le Voyage en Amérique, il recrée une partie d'un monde qu'il n'a pas vu. Mais ce qui est certain, c'est, et vous le citez d'ailleurs dans votre livre, et c'est en ça, je crois, que je ne peux pas, en dehors du titre qui me dérange un peu, le menteur magnifique, le mot menteur.
Bon. Mais il y a aussi le mot magnifique.
Oui, vous vous corrigez ensuite par un épithète, alors c'est très bien. Mais malgré tout, c'est le sentiment de l'abandon. Et ce que vous ne dites peut-être pas, et là je petite critique en passant comme ça, mais Chateaubriand n'a à une version livresque de la Grèce et des autres pays qu'il va ensuite rencontrer, Constantinople, etc.
Vous le montrez vraiment comme un grand lecteur, et un lecteur, oui, même de son temps, il se tient au courant de tout ce qui peut sortir sur les sujets qui l'intéressent.
Oui,
et
c'est un réel érudit.
Et c'est vrai pour l'Amérique. Mmh. Je fais une toute petite parenthèse pour l'Amérique. Il continue à lire tout ce qui s'écrit sur l'Amérique, et lorsqu'il écrit ces dernières pages testamentaires dans La mémoire d'autre tombe, c'est nourri de ce qu'il a lu depuis son voyage. Donc, il est toujours très au courant de ce qui se passe. Mais dans ce voyage en Grèce, le sentiment qui ressort de tout cela, c'est effectivement l'abandon. Michel de Gégère, très justement, et d'ailleurs, je le remercie, parce que ce n'est pas simplement, ce n'est pas du Guillemin. Il ne s'agit pas de... C'est vrai que vous refaites un itinéraire rigoureux, à juste titre d'ailleurs. Bon, alors, bien, que Chateaubriand soit passé le 1er août ou le 2 août à tel endroit, j'avoue, bien sûr, j'ai repris d'ailleurs pour l'exposition que nous donnons à la Vallée aux Loups et qui sera inaugurée le 25 avril, je me suis inspiré et j'ai repris vos dates en montrant bien la comparaison des deux. Et bien, ça me semble un peu secondaire, mais en même temps, il y a, je vous le reconnais, derrière le mot menteur qui moi me choque un peu, eh bien, il y a effectivement, par exemple, lorsqu'il a le sentiment de découvrir Sparte. Alors vous dites, mais non, on connaît Sparte depuis très longtemps, et donc c'est de la fabulation. Bon. Mais c'est, je crois, lorsqu'il écrit, et vous le citez, « Tout cet emplacement de Lacédémone, donc de Sparte, est un culte. Le soleil l'embrase en silence et dévore incessamment le marbre des tombeaux. Quand je vis ce désert, aucune plante n'en décorait les débris. Aucun oiseau, aucun insecte ne les animait hors des millions de lézards qui montaient et descendaient sans bruit le long des murs brûlants. » Bien sûr, on connaissait Sparte, si ce n'est qu'il avait peut-être un mauvais cicérone qui ne l'a pas conduit sur le bon chemin. Mais malgré tout, qu'il ait le sentiment de découvrir Sparte ou de ne pas découvrir Sparte, je crois qu'il y a un fond de sincérité que vous semblez nier.
C'est-à-dire que je pense qu'au fond, il y a peut-être une forme de sincérité, mais il y a aussi une grande part de calcul. Vous disiez tout à l'heure que Chateaubriand se plaçait au centre de tout. Je crois que c'est l'explication. C'est-à-dire que par pente naturelle, par caractère, parce que c'est un homme de lettres et parce que c'est un génie de la littérature, il se place au centre de tout, ce qui fait que lorsqu'il découvre quelque chose, au sens quelque chose qu'il ignorait lui-même et qu'il le découvre, il a l'impression de le découvrir au sens de quelqu'un qui découvrirait quelque chose que tout le monde ignorait. Et je crois que c'est ce qui lui arrive avec Sparte. C'est-à-dire qu'il a tâtonné pour trouver Sparte, il a eu du mal, c'était certainement difficile à trouver. Et comme il a connu pendant quelques heures cette émotion extraordinaire de chercher une ville aussi illustre, de ne la trouver nulle part et de finir par la découvrir dans un hameau misérable, oublié des hommes, eh bien, pour nous faire, pour nous communiquer au fond son émotion propre, cette émotion est tellement, ses sentiments sont tellement palpitants, cette émotion est tellement formidable qu'il n'arrive pas à renoncer à cette émotion en disant qu'au fond, il connaissait mal le terrain, qu'il a eu un petit peu de mal à trouver le véritable emplacement. Alors il faut qu'il pousse un petit peu le curseur, qu'il déplace un petit peu la réalité et qu'il nous explique qu'il a découvert un site que personne avant lui n'avait parcouru, n'avait découvert.
Sans être tout à fait sûr non plus.
Mais il est très habile. C'est là où, si vous voulez, ce qui justifie le terme de menteur dans mon titre, c'est que quand il se défend...
Expliquez-vous sur le mot menteur.
Eh bien, sur cet
magnifique,
exemple...
Magnifique, je vous approuve entièrement. Menteur, beaucoup moins.
Non, il est magnifique parce qu'il transforme le plomb en or, et que ces mensonges, car mensonge il y a, se transforment en les plus belles pages de la littérature que l'on puisse imaginer. Bien, d'une part, son itinéraire est faux, c'est-à-dire qu'il n'est pas passé là où il prétend être passé. Il n'a pas visité Corinthe, il n'a pas visité Mégare, il n'a pas visité Éleusis, il est passé directement d'Argos à Épidaure, puis à Athènes, je le montre à la suite d'un certain nombre de recoupements, il nous raconte un voyage qui, entre Argos et Athènes, est imaginaire. C'est un premier mensonge qui me paraît déjà considérable. Sur Sparte, pour en finir avec Sparte, il prétend, pour les raisons que je viens d'expliquer et avec lesquelles je pense nous sommes d'accord, avoir découvert Sparte, alors qu'avant lui, Sparte a été arpentée, cartographiée.
Vous citez je ne sais quel abbé dans les années 1760 et quelques.
Mais qu'il connaît et dont il cite les livres dans l'introduction de l'itinéraire, mais sans dire que dans ces livres, on trouve notamment la cartographie de la ville de Sparte. C'est-à-dire qu'il a une méthode qui a été reprise après lui par beaucoup de littérateurs de moindre talent et qui donc ont moins d'excuses, qui est que lorsqu'il pille l'un de ses devanciers, généralement il le cite pour pouvoir être irréprochable, mais il le cite brièvement en disant qu'on ne perde pas son temps à lire ce livre-là parce qu'il est sans intérêt. Là, on sait que c'est un livre dans lequel il a pris beaucoup de choses. En revanche, par ailleurs, il parsème ses citations d'énumérations d'auteurs qui ne lui ont rien apporté ou qu'il n'a pas forcément lu, dont il a trouvé des références dans d'autres auteurs, etc.
Je crois qu'il a lu beaucoup.
Je suis d'accord. Mais une vie ne suffirait pas à lire tous les livres qu'il cite dans l'itinéraire.
Non, bien sûr.
Je pense qu'il y a chez lui une volonté permanente de brouiller les pistes parce que il veut être tout. Il a été beaucoup, mais il veut être tout. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas. Il est un voyageur irrécusable. Il a fait un voyage qui était aventureux, que peu de personnes entreprenaient, qui était très intéressant. Il a vu beaucoup de choses. Mais il est également, encore une fois, un écrivain de tout premier rang. Mais il ne se contente pas d'être ce voyageur, cet aventurier, cet écrivain de premier rang. Il veut aussi être archéologue. Il veut aussi qu'il lui soit arrivé des aventures susceptibles de nourrir plusieurs romans. Lorsqu'il arrive dans une ville, il rencontre forcément des personnages extraordinaires. Lorsqu'il est à Mégare, apprenant que Virgile a eu la fièvre à Mégare, eh bien tout à coup il se sent moins bien, lui aussi. Il faut qu'il ait la fièvre à Mégare, là où Virgile a eu la fièvre. Lorsqu'il est dans les marais de Lerne, il faut qu'il se soit perdu dans les marais pour combattre des adversaires aussi redoutables que l'hydre qu'a combattu Hercule. Partout où les noms de la géographie évoquent des grands personnages de la mythologie ou de l'histoire, il faut qu'il se les approprie. Il a une capacité, et je pense que c'est le fond de son génie littéraire, c'est une capacité à faire miel de tout, à tout s'approprier. Il suffit qu'il ait entendu...
Le miel de Limette.
Oui, y compris. Mais il est incapable de faire la part des choses entre ce qui lui est arrivé à lui et ce qu'on lui a raconté. Qu'on lui raconte une anecdote, elle lui est arrivée. Alors l'anecdote est vraisemblable, puisqu'on la lui a racontée. Qu'on lui dise qu'un monument est admirable, il l'a visité. Et avec cela, comme il ne veut pas être pris en défaut, eh bien, il s'ingénie à brouiller les pistes en donnant un certain nombre de détails qui rendent les vérifications très difficiles. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait quelque chose d'un petit peu presque dérisoire dans la...
Non, mais vous n'avez pas employé ce mot, mais je reconnais qu'il se justifierait
dans la méticulosité avec laquelle j'ai essayé de reconstituer la chronologie de l'itinéraire.
Oui.
Mais je l'ai fait parce que Chateaubriand lui-même...
C'est un grand mérite, je vous le rends.
Oui, non, mais je ne m'en défends pas, mais je veux dire que Chateaubriand lui-même donne des indications chronologiques extrêmement précises, qui sont à peu près toutes fausses pour ce qui concerne le voyage en Grèce. Et que nous révèle la reconstitution, c'est que certains épisodes sont impossibles. C'est-à-dire que ces modifications ne sont jamais gratuites. Et c'est là où c'est pas seulement un affabulateur qui se laisserait emporter par son imagination, mais un menteur méthodique, car il élargit certains épisodes pour permettre à certaines aventures imaginaires d'avoir lieu. Il, au contraire, resserre d'autres étapes où il ne sait rien parti de particulier, où il n'a pas d'anecdotes à raconter, d'épisodes à faire revivre, et donc il change sans cesse la chronologie pour permettre au fond à ce qui est son roman de se déployer. Et je crois que la clé des choses, c'est que l'itinéraire est un roman dont Chateaubriand est le personnage principal et ce qui lui permet, eh bien, de déplacer les villes, de changer la chronologie, de multiplier les aventures de façon souveraine, comme un auteur de fiction.
Alors, je vais me permettre de couper ce débat et nous allons nous retrouver dans un instant. À tout de suite.
Canal Académie. Christophe Dickès.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Jean-Paul Clément, spécialiste de Chateaubriand, auteur d'une biographie parue aux éditions Flammarion et directeur de la maison Chateaubriand à Châtenay-Malabry. Vous allez, Jean-Paul Clément, organiser très prochainement une exposition consacrée au voyage en Orient. Et Michel de Gégère, auteur du livre Le Menteur Magnifique, Chateaubriand en Grèce, paru aux éditions Les Belles Lettres. Alors, nous sommes en train de débattre du mensonge. Est-ce que...
C'est
finalement,
le mot menteur
qui voulait. Est-ce que Chateaubriand n'est pas à la recherche d'une Grèce idéale? Ou au fond, est-ce qu'il n'idéalise pas cette Grèce? Oui.
Si, mais il ne l'a jamais véritablement dit. Mais lorsqu'il parle effectivement de ce territoire désolé, c'est pas tellement l'idéalisation. C'est une Grèce qui aurait perdu la conscience d'elle-même. Et cela, vous en parlez. Bien, mais c'est une Grèce amnésique. Et je crois que vous auriez peut-être pu insister davantage, vous n'en parlez pas, mais ce n'est pas une critique. Mmh. Chateaubriand, s'il y a une critique à lui faire, et je n'hésiterai pas à le faire, eh bien, c'est d'avoir méconnu tous les mouvements de résistance, d'émeute, tout le rôle joué par les négociants, qui en particulier étaient en rapport permanent avec Marseille, par exemple, et donc avec les idées nouvelles, avec la Révolution française, avec la Déclaration des droits de 89, etc. Tout ça, il semble l'ignorer, un peu comme s'il voulait véritablement réduire cette Grèce à ce néant. J'ai cité quelques lignes tout à l'heure de Sparte, mais c'est une sorte de lamento.
Puis c'est un paysage
tragique,
sur lequel il déplace son
tragique,
héros.
Oui. Tragique. Tragique avec... bien. Et on voit que ceux qui l'ont suivi, en particulier le comte de Forbin, qui avait des moyens très supérieurs, il avait une mission officielle de Louis XVIII, Forbin, en 1817, nous a rapporté d'autres éléments que ceux que nous apporte Chateaubriand. Donc, il y a là une très forte opposition entre cette Grèce qui a perdu le sentiment même de son identité, et puis ces baies, ces petits chefs locaux, ces agas, etc., qu'il faut rencontrer, à qui il faut demander un firman pour passer d'un endroit à l'autre, etc. Mais je crois que la déception, c'est sans doute de voir ce qu'il considérait comme la racine même de son identité occidentale, eh bien en quelque sorte se défaire. Et alors il y a peut-être le sentiment de la reconstruire peut-être dans l'idéal. Et on sait que en 1836, lorsqu'il écrit son essai sur la littérature anglaise, il y a un chapitre tout à fait inattendu. Sainte-Beuve disait que cet essai sur la littérature anglaise était une espèce de commode. Alors on tire un tiroir et puis on trouve quelque chose, puis autre chose. Eh bien, il dit effectivement que pour lui, le beau idéal, c'est la Grèce. Et que pour lui, le beau du beau idéal, c'est ce que son ami Marcellus, qui a été son premier adjoint à l'ambassade de Londres en 1822, vient de redécouvrir à travers des péripéties extrêmement compliquées. On ne sait pas qui est véritablement l'inventeur, au sens juridique du terme, de la Vénus de Milo, mais pour lui, c'est le beau idéal. Et lorsqu'il retourne en 1828 à Rome, qu'il avait connu en 1823, donc 25 ans après, il a un moment de déception. Parce que ce qu'il a vu en Grèce a laissé une trace ineffaçable. Mais est-ce une Grèce imaginaire? C'est possible. On sait les déceptions, vous le dites dans un très beau chapitre sur la lettre à Fauvel, qu'il est resté finalement très peu de temps, et que tous les consuls qui étaient en place, et pour lesquels il avait reçu des lettres de recommandation de Talleyrand, qui était aux relations extérieures à l'époque, eh bien, se sont un peu plaints. Alors, je ne parle pas d'Avramiotti, qui est une espèce de vieille sorcière.
Qui revient régulièrement dans votre livre, Michel de Légère.
Oui, vous en abusez, vous en abusez. Fauvel, vous avez raison. Avramiotti, c'est un personnage auquel vous donnez une trop grande importance.
Ah, j'étais content de le faire revivre parce que c'est un,
oui,
un,
enfin,
c'est un,
mieux,
c'est un personnage de la
J'aurais
Bruyère.
Préféré que mieux qu'il soit mort que vivant.
Mais il est toujours vivant.
Pas, il n'importe il pas grand-chose.
Il est toujours vivant car c'est un type, c'est l'idiot savant.
C'est l'idiot savant.
C'est
oui.
le
je
type
suis de
qui
votre
sait
avis.
Tout et qui ne comprend rien.
Vous
qui
le traitez avec beaucoup d'ironie, Michel de Légère.
Oui, mais c'est pourquoi. C'est pourquoi
je
ne critique pas.
C'est
pour ça que
j'ai trouvé que c'était un caractère immortel et qu'on en rencontre tous les jours des Avramiotti. Alors,
oui.
je voudrais répondre sur ce que dit Jean-Paul Clément sur le fait que Chateaubriand n'ait pas vu au fond les prémices du mouvement de libération des Grecs qui allait déboucher sur la guerre de libération nationale.
Oui.
C'est vrai, je pense que c'est dû au fait que son passage est trop court. Encore une fois, en 13 jours, il a vu déjà beaucoup de choses. Et donc, il prétend faire un tableau de la Grèce qui inclut une dimension sociologique, ce qui, dans le délai qui lui était imparti par les contraintes qu'il s'était... C'est là où Nathalie de Noailles, à mon avis, joue son rôle. Dans le délai qu'il s'est réservé et dans la hâte avec laquelle il a traversé la Grèce, avec quand même les monuments à visiter, le caractère quand même difficile des communications, il traverse toute la Grèce à cheval dans des petits sentiers difficiles,
et
etc. C'est une vraie aventure, il ne faut pas le lui enlever. Eh bien, il a déjà vu beaucoup de choses. Mais ça, c'est vrai qu'il ne l'a pas vu. Mais il a vu ce qu'il a vu, comme vous le dites, c'est que, encore une fois, c'est cette déception du premier abord, c'est que la Grèce ne ressemblait pas à l'image qu'il s'en faisait à la lecture de ses livres. Et ce qui est intéressant, c'est que par là, il va préfigurer, au fond, tout un courant qui traverse le 19e siècle, qui est à la fois le philhellénisme et la déception des philhellènes. Vous avez, au moment de la guerre de libération nationale, tout un enthousiasme de l'Europe lettrée pour la cause des Grecs, je pense à Delacroix, à Victor Hugo, de gens qui n'ont jamais mis les pieds en Grèce et qui eux aussi, comme Chateaubriand, et peut-être à la lecture de Chateaubriand, se font l'idée d'une Grèce idéale et n'imaginent pas une seconde que les patriotes Croates qui font la guerre aux Turcs sont quelquefois des brutes plus ou moins sanguinaires qui incendient des villes et qui n'ont pas, disons, le maintien de descendants de Périclès. Et ce malentendu va faire qu'un certain nombre de... Il y aura des mécomptes du philhellénisme et un certain nombre de voyageurs, un certain nombre d'érudits ou de gens qui se sont engagés, même de philhellènes qui se sont engagés pour la cause des Grecs, vont connaître cette déception et il y aura un courant, si l'on peut dire, de misellénisme dans les années 20, 30, 40 qui consistera à dire que c'est une vue de l'esprit que de considérer les Grecs révoltés contre les Turcs comme les héritiers de Périclès et de Platon. Je pense à un livre comme le livre d'Edmond Abou, La Grèce contemporaine, qui va complètement être dans cette veine. Mais tout de même, alors à la gloire de Chateaubriand, je dirais que je trouve qu'à la fin de son voyage, lorsqu'il est sa méditation du Cap Sougnon, lorsqu'il regarde la mer du Cap Sougnon, il y a une description de la Grèce et de la misère de la Grèce sous l'occupation ottomane qui est d'une force absolument saisissante et qui, pour un journaliste, en dehors même de la beauté de l'image, de la beauté de la langue, de la beauté du style, saisi d'admiration parce qu'on se dit que même s'il n'a pas tout vu, comme vous le dites, parce qu'il n'en a pas eu le temps, dans un voyage aussi rapide, il n'avait pas ses yeux dans sa poche et il n'a pas si mal regardé que cela. Parce qu'il a vu toute la misère de la Grèce occupée, il a vu tout le caractère destructeur au fond de l'occupation ottomane en la comparant à l'Empire romain et en montrant que quels que soient les excès, il dit un proconsul pouvait être avare et impudique, mais il ne détruisait pas un pont, une route par simple caprice, or c'est ce que font les Turcs tous les jours, et il a senti, il me semble qu'on le lit sans cesse entre les lignes, il a senti que cette domination ne durerait pas toujours. Simplement, c'est vrai qu'en voyant le spectacle que lui ont donné les paysans grecs, qui ne correspondaient tellement pas, encore une fois, à l'image qu'ils s'en faisaient avant de partir, il a eu du mal à imaginer que cette insurrection puisse avoir lieu.
Parce qu'il n'a vu qu'une partie de la population, car, ne l'oublions pas, tous les voyages de Chateaubriand, que ce soit dans ce qu'il appelle le Nouveau Monde, ou dans l'Ancien Monde, le plus ancien, c'est-à-dire la Grèce, comment le fait-il? Avec ses propres moyens. Bon, heureusement, il y a un consul qui met à sa disposition un janissaire, qui va lui assurer une certaine sécurité. Mais ce sont des voyages très périlleux, incertains. Les cartes ne sont pas sûres. Il rencontre effectivement des agas ou des baies, etc., qui sont presque aussi misérables que les Grecs, il faut bien le dire. Et donc, ce voyage, ces deux voyages sont des voyages d'aventuriers. Il y a un côté Malraux dans Chateaubriand. Et lorsqu'il fait ces voyages, c'est sans aucune espèce de moyen. C'est avec ce qu'il a apporté, ses connaissances, les souvenirs, et ce qui est très intéressant dans votre livre aussi, c'est la correspondance entre Choiseul Gouffier, qui a été le premier, qui a été ambassadeur auprès de la Sublime Porte, et Fauvel, qui était à Athènes, et eux parlent de Chateaubriand. Donc tout cet aspect-là, effectivement, apporte beaucoup de choses au livre, et vraiment, je trouve que c'est un apport important dans votre ouvrage. Mais Chateaubriand est tout seul, avec, bon, de temps en temps, il a Julien Potelin, et sont ceux qui écrira un journal, mais pour le reste, il vit dans une sorte de pauvreté, de misère qu'il avait connue déjà en Amérique. Donc, il faut en tenir compte aussi, ce n'est pas un archéologue, même si parfois, il se pousse un peu pour dire « je suis archéologue, j'ai découvert ceci ». Non, il découvre et son Cicérone qui est absurde et idiot à Sparte. Ben, oui, bien sûr, mais il l'écoute.
Michel de Gégère avant une dernière pause.
Eh bien, simplement sur la question de Jean-Paul Clément évoquait il y a un instant la figure de Fauvel. Fauvel, c'est donc le vice-consul de France à Athènes. Mmh. Et Jean-Paul Clément disait tout à l'heure que lorsque Chateaubriand reviendra à Rome, il ressentira une certaine déception sur, au fond, ce que les Romains ont fait par rapport à l'exemple de la Grèce. Oui. Et je crois que c'est l'une des leçons de Fauvel. C'est une des choses qu'on trouve dans les papiers de Fauvel, dans la correspondance de Fauvel. Elle est imprégnée de l'idée que tout ce qui a Athènes est dû aux Romains et marqué par l'infériorité oui. romaine. Et je pense que là, c'est l'influence, on peut voir là l'influence que Fauvel a eue sur Chateaubriand. Alors c'est intéressant parce que Fauvel est un savant qui a eu une carrière d'archéologue extraordinaire, qui aujourd'hui, c'est grâce à lui qu'il y a des méthodes du Parthénon au Louvre, qui a découvert un nombre de sites incroyables, oui. qui a eu une très grande notoriété de son temps, qui aujourd'hui est complètement oublié parce qu'il n'a jamais rien écrit. Et au fond, ce que l'on connaît de la doctrine, si l'on peut dire, des connaissances de Fauvel, aujourd'hui, on les connaît grâce à Chateaubriand. Soit que Chateaubriand ait honnêtement raconté ce que Fauvel lui avait dit, ça se trouve dans beaucoup de passages de l'itinéraire, soit que quelquefois Chateaubriand se soit attribué les idées de Fauvel, mais qu'on les devine entre les lignes.
Nous nous retrouvons dans un instant.
Qui porte l'habit vert ?
Les académiciens des 5 académies.
Qui est invité en habit vert ?
Les académiciens des 5 académies.
Qui s'exprime en habit vert ?
Les académiciens des 5 académies.
En habit vert ?
Le portrait.
Le parcours.
La rencontre.
Des académiciens des 5 académies.
En direct ou en médiathèque.
Sur Canal Académie.
Nous reprenons le cours de notre émission, la dernière partie de cette émission consacrée au voyage de Chateaubriand en Grèce. Je reçois Jean-Paul Clément, spécialiste de Chateaubriand. Vous avez écrit, Jean-Paul Clément, une biographie chez Flammarion. Et je reçois Michel de Gégère, auteur du livre « Le menteur magnifique, Chateaubriand en Grèce », paru aux éditions Les Belles Lettres. Alors, je voudrais revenir quelques instants sur ce philhellénisme et, au fond, sur le message politique qui se dessine derrière le voyage en Grèce. Car Michel de Gégère, vous y voyez un message politique et un message politique qu'on a envie de dire un peu d'actualité qui est sur la question turque dans l'Europe.
Alors oui, tout à l'heure, Jean-Paul Clément évoquait l'alliance chez Chateaubriand de la patrie, de la liberté et du voyage. Et je crois que le voyage en Grèce en est une démonstration éclatante, puisque tout au long de ce voyage, eh bien, on sent que Chateaubriand rêve d'un dessein politique magnifique pour la France qui serait de se faire le libérateur de la Grèce opprimée et des lieux saints. Et il le fait par l'évocation des croisades. Les croisés, il évoque à la fois les croisés comme libérateurs de Jérusalem et puis la quatrième croisade avec les barons francs se taillant des principautés en Grèce. Et cette invocation sous-tend chez lui, à mon sens, un projet politique qu'il propose à Bonaparte. Bonaparte, après tout, a remodelé l'Italie en faisant tomber les principautés italiennes et en créant l'Italie moderne. Eh bien, pourquoi est-ce que la France ne se ferait-elle pas l'héritière des croisés en remodelant l'Orient, en faisant tomber l'Empire ottoman et en ressuscitant la Grèce? Je crois que cette idée, cet idéal, cette utopie, si l'on peut dire, sous-tend bien des pages
de l'Italie. Qui n'est pas si utopique que ça, parce que ce qu'il annonce, pour le meilleur et pour le pire aussi, c'est la fin des grands empires multiethniques et l'apparition du principe de nationalité. La Belgique en 1830, la Grèce en 1831, au traité de Londres, c'est l'apparition de nouvelles nations fondées sur une réalité qui est celle d'un peuple avec son histoire, et tout à fait, et qui met en danger, et qui disloque d'ailleurs en grande partie, tout le système de Metternich au Congrès de Vienne. Et mal accepté, mais enfin, il a réussi à entraîner derrière lui. Donc, toute cette partie-là est extrêmement importante, et Chateaubriand, d'ailleurs, aurait souhaité être le ministre des Affaires étrangères en 1831, qui aurait signé le traité donnant son indépendance à la Grèce. La déception, il ne le dit pas, mais la déception, c'est qu'en 1831, qui choisit-on ? Ce ne sont pas les patriotes grecs, parce qu'il y a des personnalités extrêmement importantes, et qui n'étaient pas des brigands. Qui choisit-on ? Un Bavarois, le roi Othon, qui n'a aucun rapport avec la Grèce, et c'est une déception d'ailleurs pour tous ceux qui avaient monté, car c'est un mouvement littéraire, pictural, intellectuel, etc., qui est celui du philhellénisme avec les massacres de Scios, par exemple, par Delacroix. Donc, cela est, je crois, une déception. Mais là, vous vous arrêtez au voyage proprement dit. Moi, je n'aurais pas mis le menteur. J'aurais mis le magnifique, quelque chose d'autre, mais en substantif. Mais je trouve que c'est un très beau livre. Et je m'en suis inspiré pour l'exposition donc que nous allons donner, parce que votre livre est d'une rigueur imparable, implacable,
mais sans sévérité excessive.
Non, parce que vous savez, c'est aussi un mérite, je vous le dis, c'est d'avoir choisi de très beaux extraits de Chateaubriand. Montrer.
Le Capsouillon, vous citez deux pages entières.
C'est magnifique. C'est magnifique, oui. Et je l'avais repris dans plusieurs ouvrages, parce que cette méditation qui rappelle un peu, en beaucoup plus restreint, mais ce qu'avait été la grandeur des cadences des Romains de Montesquieu, vous le reprenez là, c'est un élément, une méditation, et le sentiment que Bonaparte pourrait peut-être reprendre la main, et c'est une main tendue à Bonaparte pour reparaître dans cette partie de l'Empire ottoman qui déjà est un peu l'homme malade de l'Europe.
C'est la raison pour laquelle je ne crois pas du tout à la thèse qui est quelquefois répandue selon laquelle les critiques de la tyrannie ottomane dans l'itinéraire seraient des critiques voilées à l'Empire. Je crois qu'on est beaucoup plus, comme le dit Jean-Paul Clément, dans une main tendue où Chateaubriand propose au fond une politique au régime, en disant voilà, on a une monarchie militaire, elle est capable de grandes choses, et bien il y a des grands desseins, exactement, des grands projets.
Alors je reviens enfin sur le mensonge, vous écrivez, Michel de Gégère, rien n'obligeait le poète à être exact, après tout, il n'a rien usurpé qui ne lui appartient en propre.
Oui, c'est évident que on ne peut pas reprocher à un romancier d'écrire un roman. La différence,
c'est pas un roman, c'est tout de même un itinéraire, avec des éléments peut-être que, empruntés.
Voilà, Chateaubriand proteste sans cesse de l'authenticité de tout ce qu'il écrit. Il y a plusieurs passages dans lesquels il dit que le plus grand mérite d'un voyageur, c'est l'exactitude de son récit. Il ne doit rien inventer, il ne doit rien omettre, il doit être méticuleux dans son récit. Or, les affabulations, malgré tout, abondent. Et notamment, l'itinéraire même qu'il prétend emprunter, encore une fois, n'est pas celui qu'il a emprunté. Il prétend avoir été à Corinthe. Il nous explique qu'à Corinthe, tous les monuments de l'Antiquité sont détruits et qu'il a couché dans le caravansérail qui est au centre de la ville de Corinthe. Or, le temple d'Apollon, dont se dressent encore sept belles colonnes de marbre blond qui font plus de 10 mètres de hauteur, et à l'époque de Chateaubriand, il y en avait 11, est au centre de ce caravansérail. Donc, on peut être à peu près certain que Chateaubriand n'y a pas couché. Il prétend que ce temple avait été détruit alors qu'il ne l'avait pas été. Il prétend avoir admiré les vignes qui s'étendent tout autour de Corinthe, alors qu'on sait qu'il n'y avait pas de vignes autour de Corinthe. Les vignes sont à 2 heures de marche de là, mais simplement, comme les raisins de Corinthe avaient déjà une réputation mondiale, eh bien, s'il y a des raisins, forcément, il y a des vignes. Il se met en scène lapidé par des enfants dans ces vignes, parce qu'il se trouve que Saint Paul ayant été lapidé et Saint Paul étant le grand homme de Corinthe, il faut que Chateaubriand ait été lapidé lui aussi à Corinthe. Et on pourrait multiplier les exemples. Il raconte sa visite de Mégare, sa visite d'Éleusis, avec un certain nombre de détails qui sont pris dans les livres de ses devanciers, mais avec aucune chose vue qui lui soit propre. Et il arrive à Athènes et il fait une magnifique description d'Athènes telle qu'on voit Athènes en venant d'Éleusis. Et il dit « Mon étoile m'avait amené par le meilleur des chemins, celui où la ville se déploie dans toute sa splendeur, etc. » Alors que les malheureux voyageurs qui arrivent du Pirée, eh bien, ne profitent pas de la majesté d'un tel spectacle, car la citadelle leur est cachée quand ils arrivent du Pirée. Or, on sait par une lettre de Fauvel qu'il arrivait du Pirée, qu'il avait fait la traversée par mer, et que donc, il a le culot, je dirais, de nous mettre au défi de le prendre en défaut, en nous expliquant que son étoile l'a amené par le meilleur chemin, alors que la réalité, eh bien, c'est qu'il a pris l'autre chemin, celui où justement on ne voyait pas la citadelle comme on aurait pu le voir. Mais je dirais que cette phrase dit tout, parce que lorsqu'il dit que son étoile l'a amené par le meilleur chemin, eh bien, il sait que son étoile, c'est justement ce génie de la littérature qui lui permet de déplacer les montagnes, de transformer les épisodes de sa vie pour en faire ce récit merveilleux et émerveillé.
Eh bien, nous allons, Jean-Paul Clément, si vous le voulez bien, et Michel de Gégère, rester sur ce génie, ce trait de génie. Donc, nous incitons.
Oui, sur le génie, nous sommes d'accord.
J'incite nos auditeurs à ouvrir et lire le livre de Jean-Paul Clément, Chateaubriand, dans la collection Les Grandes Biographies de chez Flammarion, ainsi que le livre Le Menteur Magnifique de Michel de Gégère, Chateaubriand en Grèce, aux éditions Les Belles Lettres. Et vous serez d'accord, tous les deux, à revenir au texte même et à Chateaubriand et à l'itinéraire donc qui fonde le voyage romantique. Je vous remercie, tous les deux.
Merci.
Merci à vous.
Et nous nous retrouverons la semaine prochaine. Merci et à très bientôt.